Je préfère être nue que danser. Cette petite phrase est de l'actrice Kirsten Stewart et je suis sûre qu'elle parlera à tous ceux qui, en esquissant un pas de danse, se sentent instantanément gauche, albatros avec des ailes mal gérées et sens du rythme approximatif. Nous allons essayer de montrer à Kirsten et à vous qui marchez nue dans ses pas qu'elle aime danser, c'est juste qu'elle ne le sait pas. Bienvenue dans le Mac de l'été, une petite pause dans l'actu pour faire un saut de l'ange dans la culture. Et donc ce soir on danse ensemble, on danse en rond, on danse quel que soit notre corps, notre âge, notre vague à l'âme, et tout ça on le fait avec Boris Charmartz. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Je suis allée voir Cercle hier soir, votre atelier spectacle sous la nef du Grand Palais, où vous faites danser à peu près 200 personnes, dont seulement une dizaine, 11 très précisément professionnels, dans un cercle. J'y suis allée, je dois être honnête, en traînant des pieds, j'avais pas trouvé d'amis pour venir avec moi, et la danse parfois, moi je rentre pas dedans. Je suis sortie absolument enchantée, hyper émue. J'en parle depuis hier à quiconque a la chance ou pas de croiser ma route. On va parler de ces émotions que procure la danse, de cette tradition dans laquelle vous vous inscrivez aussi. Et puis en parlant de tradition, on a eu très envie avec l'équipe du Mac de l'été de vous présenter Bernard Coquelet. Bernard Coquelet, il organise depuis 30 ans le Grand Bal de l'Europe, c'est à Genetine dans l'Allier. C'est 15 jours de danse, de transe même, avec plus de 6000 participants qui viennent de l'Europe tout entière. Et sa danse préférée, c'est la bourrée. C'est une danse en cercle, elle aussi. Et puis à 18h30, comme tous les soirs, on fait un petit point panorama culture avec un phénomène en librairie, des cahiers de vacances et un beau festival. D'ici là, prenez votre temps, trouvez un radis, détendez-vous les orteils, je m'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été, Marie Misset.
Boris Charmartz, ce spectacle, vous l'avez créé, cet atelier spectaculaire pour le Festival d'Avignon l'année dernière. Je crois qu'avec Thiago Rodriguez, vous n'étiez pas sûr au début de faire soit un spectacle, soit un atelier. Et puis vous vous êtes dit,
on hésitait, on va faire sur les deux. Forme. Ouais, on hésitait sur la forme, est-ce qu'on prépare donc en atelier et puis ensuite on fait une représentation, ou est-ce qu'on laisse le côté recherche à vue en direct. Et c'est vrai que Thiago Rodriguez et toute son équipe nous ont dit non, on fait un atelier recherche, c'est mieux. Et nous on était, oh, mais quand même c'est le Festival d'Avignon, c'est un festival de première, et en fait c'était vraiment la forme qu'il fallait à ce projet, où c'est un mélange, c'est à la fois atelier et spectacle, parce que c'est ultra spectaculaire d'avoir les 200 danseurs qui se donnent comme...
Oui, et puis ça se termine quand même par une sorte de représentation. Le public peut s'échauffer avec les danseurs. Ça m'a fait rire parce qu'ensuite, vous avez répété hier, mais au moins 3 fois, que le public n'avait pas le droit de venir danser avec vous. Et je me suis dit que ça veut dire que c'était arrivé plein de fois que
oui,
des gens...
Oui, mais c'est vrai qu'à Avignon, on a eu un petit souci à un moment. Bah déjà, on est 200, donc quand quelqu'un se rajoute, on ne le voit pas tout de suite. Et c'est un peu dangereux ce qu'on fait. Parce que les 200 qui courent sur le disque, là, dans le cercle, c'est déjà assez dangereux, mais on s'est préparé, ça fait déjà 3 jours qu'on danse, on a des matériaux, on s'est chaud, et là, si quelqu'un nous rejoint, ça peut être vraiment dangereux, c'est déjà dangereux, mais on a pas besoin d'en rajouter, voilà.
Avant de rentrer un petit peu plus dans ce spectacle, j'ai très envie de savoir quel genre de profiteur de l'été vous êtes. C'est l'interview haute saison, Boris Charmartz. Alors, je voudrais savoir à quoi ressemblaient vos vacances enfants.
Bon, c'était très contrasté, parce que je suis né à Chambéry, donc on faisait à la fois des vacances montagne, comme ça, mais aussi, j'ai aussi fait des vacances à Berlin l'été, ce qui était quand même très rare.
Enfant ?
Enfant.
Ouais. Pourquoi ?
Oui, tu vois, là, je vois les sourcils qui se froncent.
J'ai envie de vous demander en plus.
Mais exactement.
C'était avant que le mur. Je ne veux pas dévoiler votre âge.
Oui, je vais le faire dans quelques instants. Si, quand même, je suis dans 73. Non, c'était avant la chute du mur.
Avant que le mur tombe.
Et le plus étrange, c'est que j'adorais ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai découvert, les punks avec des rats sur l'épaule, le Berliner ensemble, la Schaubühne. C'était vraiment pour moi. C'était des vacances, bien sûr, mais c'était aussi une plongée dans l'histoire, la culture. Bon, c'est triste aujourd'hui, d'une certaine manière, mais c'est des soldats aux frontières, des checkpoints, c'était l'histoire, quoi. C'est comme si la guerre froide, tout ça était encore là, et d'ailleurs, ça l'était. Hein. Et du coup, j'avais l'impression de vivre quelque chose de très, très intense, d'être au cœur du monde en train de se faire.
À 8 ans.
8, 9, 10, 11.
C'est très marrant parce que Bernard Coquelet, dont on va reparler tout à l'heure, avec qui on va parler tout à l'heure, toute son idée du bal de l'Europe est née à Berlin pendant la chute du mur. Donc il nous en reparlera. C'est quoi pour vous l'image de l'été, si vous devez avoir une image précise de ce que serait un été idéal?
Alors moi, parce que je bouge beaucoup toute l'année, tout le temps, en train, en vélo, à pied et parfois un peu en avion malheureusement. Mais donc l'été pour moi c'est plutôt l'image, c'est la cure quoi. C'est-à-dire c'est des tonnes de bouquins, dormir, manger, discuter, jouer, nager, lire. C'est un peu ne rien faire quoi. C'est plutôt la cure que les vacances.
Mais ça a l'air très bien.
C'est super.
Ne le dites pas comme ça non, avec non, mais un petit air contrit.
On peut avoir envie de au contraire de bouger. Hein. Moi je bouge mais
la sieste. Non la sieste
c'est
plutôt, bien.
C'est plutôt dormir, lire.
On va aller plus loin, j'ai envie de vous replonger dans l'été de vos 20 ans. On est en 1993, l'Olympique de Marseille vient de gagner la Ligue des Champions, mais il se passe beaucoup d'autres choses.
Excusez-moi, mais où est-ce qu'ils vont comme ça?
À Gobler Snob, c'est le jour de la marmotte.
Et ça dure seulement un jour chaque année.
Madame, Monsieur, bonsoir. Il n'y aura pas d'expérimentation nucléaire pendant cette année 93. Et notre pays souhaite qu'il n'y en ait plus, nulle part et plus jamais. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt
me. No more. I'd like to make a swap.
What for?
The piano.
She says it's her piano and she won't have him touch it.
There's things I'd like to do while you play.
L'impression, Boris Sharmat, que Love Hadaway vous parle un tout petit peu plus que les essais nucléaires, que la fin des essais nucléaires.
Non, c'est parce que j'avais oublié la fin des essais nucléaires. C'est quand même magnifique comme nouvelle.
Ouais. C'est 93, c'est aussi l'année où vous avez créé À bras le corps avec Dimitri Chamblas. Vous étiez jeune, c'était une pièce de jeunesse, mais vous vous êtes dit, dès ce moment-là, que vous allez continuer à la danser, cette danse. Vous avez dit, ce sera probablement le plus beau quand on aura 60 ans.
Oui,
on
s'est dit ça et on vient de le redanser il n'y a pas longtemps dans le sud, au pied des Pyrénées, dans un tout petit festival par terre. Donc on était dans l'herbe avec des bancs récupérés à droite à gauche dans les fermes alentours. Pour les habitants, c'était assez incroyable. On le danse encore.
Et ça marche.
Et c'est un peu dangereux parce qu'on a vraiment 32 ans de plus qu'à l'époque. Quoi. Donc c'est chaud, mais on adore le faire. Ouais. Et c'était un peu c'était un pari, on s'est dit on va le danser. Ça va être intéressant de vieillir dedans.
Et ben c'est ce que vous êtes en train de faire.
Vieillir dans une pièce de jeunesse, et on est en train de le faire. Par contre, on n'est pas d'accord sur jusqu'à la mort. Voilà, on a une direction, mais on n'a quand même pas de...
Il n'y a pas de fin programmée.
Voilà, on va voir.
En tout cas, on entend que le danger rôde quand vous dansez. Ça fait trois fois que vous dites danger. On reste en 93 avec ce titre qui a eu son petit succès et qui peut faire penser à votre pièce où près de 200 corps dansent ensemble. C'est Foule Sentimentale. C'est évidemment Alain Souchon sur France Inter.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous prend, faut pas déconner. mental. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lou solidaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mort. Ciel dévale, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval.
La foule sentimentale d'Alain Souchon. Retour justement sur cette foule que vous faites danser pour Richard Matz au Grand Palais cette année.
France Inter, le mag de l'été.
Notre plus grand outil de questionnement, c'est le corps. Et les gens qui assimilent une espèce de sauvagerie du corps, une espèce d'état organique premier, avec ce qui serait de l'ordre de la d'un état d'innocence ou d'un état originaire, se trompent. Ils ne savent pas ce que c'est le corps. Et avec cette phrase de Spinoza, qui a été répétée par Deleuze et par beaucoup de gens après lui, on ne sait pas ce que peut le corps. Mais le corps peut beaucoup, et en tous les cas, le corps, il pose des questions. Et c'est à partir de là que, justement, la danse travaille sur ses ressorts profonds.
On entend les mots de l'historienne de la danse Laurence Loup parler du corps qui danse, et c'est ce qui m'a touché vraiment fort hier dans Cercle, dans votre atelier spectaculaire sous la nef du Grand Palais. Ce sont tous ces corps qui dansent. Il y a des danseurs pros qui ont ces corps absolument impressionnants et qui étonnent. Puis il y a les danseurs amateurs de tout âge, de toute corpulence, vous disiez de 16 à 75, 76 ans, des corps gros, des corps tout minces, des corps élastiques, des corps raides aussi. J'étais absolument fascinée par la diversité et je crois que c'est ça qui m'a le plus émue. Comment c'est pour un chorégraphe d'avoir cette matière-là, pour Richard Matz, ce corps humain sous toutes ses formes?
Bon, déjà, c'est un luxe incroyable de pouvoir faire une chorégraphie à 200. Parce que c'est plus que le nombre de danseurs de l'Opéra de Paris. Et ils sont jamais tous ensemble sur scène à l'Opéra. Donc là, on est tous ensemble. Et puis, ils sont très concentrés, ils sont hyper motivés. Et du coup, je dis un petit mot et ça passe tout de suite dans la chorégraphie, ça passe dans leur interprétation. Ils sont très à l'écoute. Et c'est aussi l'effet peut-être Grand Palais. Hein. C'est un écrin magnifique. On n'est pas à ciel ouvert, parce qu'il y a la verrière, mais on voit le ciel.
Et on peut y faire chaud également.
Alors, il fait peut-être un petit peu trop chaud aujourd'hui, on va voir. Mais ils sont très très impliqués. Et du coup, c'est pas un projet participatif au sens... Il y a un mélange des grands professionnels et des amateurs, et les amateurs sont impliqués. C'est pas un sacrifice, mais bon, tous les soirs ils sont là, ça leur demande, c'est fatigant. Ils habitent parfois loin, ils travaillent ici ou là, et donc c'est un vrai engagement en fait, et ça se voit, je crois.
Et vous, ceux qui viennent, vous connaissez leur motivation un petit peu? Est-ce que vous savez ce qu'ils viennent chercher?
Alors non, je sais pas. C'est vrai que c'est un mélange de le Grand Palais, danser, sortir du quotidien, sortir des nouvelles. Je sais pas. C'est un ensemble. C'est aussi faire des choses inhabituelles. Hein. Je sens on a un peu toutes les catégories socio-professionnelles. Ça, on fait un pas de côté, mais dans ce pas de côté, on peut aussi exprimer ce qu'on ressent dans son quotidien, dans son appart, dans sa famille, en soi.
Oui, ça se voit qu'il y a des sentiments qui sortent.
Oui.
Il y a d'abord un échauffement de 20 minutes auquel tout le monde est convié à participer. Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça change au reste de la performance de faire bouger le public, de l'impliquer comme ça?
Oui. C'est une ruche pédagogique, c'est-à-dire au lieu d'avoir un cours, c'est-à-dire je pourrais moi enseigner, ça, on demande aux 11 danseurs qui sont vraiment des danseurs extraordinaires qui aiment faire ça aussi, de faire un, du coup c'est une sorte de cours chaotique parce que c'est comme s'il y avait 11 profs en même temps dans qui se baladent dans toute la nef.
Il y a des cris qui partent.
Voilà, dans toute la nef, c'est assez drôle. C'est drôle à regarder et c'est super à faire vraiment parce qu'on les groupes se croisent, on est un peu perdu et ça nous oriente en fait vers le projet. Ça, c'est une manière de rentrer. Et puis de toute façon, nous on doit échauffer les amateurs. On doit donc ils viennent d'arriver, ils viennent du boulot, ils viennent du métro, ils viennent là.
D'arriver.
Ben, à 20h, ils arrivent, ils sortent de je sais pas de d'où ils sortent, mais ils arrivent. Donc, on peut pas juste commencer à faire la chorégraphie. On doit s'échauffer. Donc, là, on s'échauffe en public et même avec le public.
Hier, je vous sentais un peu frustrée parfois parce qu'il y a des gradins dans la nef du Grand Palais. Et à la base, les gens sont pas censés s'asseoir là. Ils sont censés s'asseoir autour du cercle. Ça vous frustre un peu quand les gens font pas ce que vous voulez?
Non, en réalité, mais j'ai aussi compris au fur et à mesure. Hier, c'était le premier jour, il y avait du public. En fait, moi aussi, j'étais dans les gradins. Puis je me suis dit, non, mais en fait, c'est super les gradins parce qu'on a un peu de hauteur. Et dès qu'on prend de la hauteur, on voit encore mieux les 200 danseurs. Donc, je comprends, on est vraiment bien dans les gradins, mais j'ai envie que les gens aillent, prennent l'escalier, voient de tout en haut, depuis le salon d'honneur, soit aussi tout près de nous dans le cercle, parce que finalement, j'aime bien quand les gens sont assis ou debout, vraiment à côté de nous, à l'horizontale, parce que là, on se prend aussi la danse de comme ça, de plein fouet. Mais j'ai compris après coup. Au début, j'étais un peu dur avec les gens dans les gradins.
Justement, on va écouter quelqu'un dont vous connaissez un peu le travail.
A part of my work is also that I think that
il m'est difficile d'expliquer parce que une partie de mon travail est précisément de penser que les images sur scène sont très ouvertes pour que tout le monde soit libre de croire en ce qu'il perçoit.
And I think each one should trust their own feeling and what comes to your heart.
Il y a ce qu'il y a, des images, des danseurs, à chacun de croire dans ses propres perceptions, ce qui vous vient à l'esprit, au cœur.
En tout cas, moi, dans les perceptions que j'ai eues devant, notamment devant cette danse de Isadora Duncan, étude révolutionnaire que vous reprenez, que vous faites danser à 200 personnes, où les poings se lèvent, où les bouches se tordent dans des cris qu'on n'entend pas, de voir 200 à 250 poings se lever quasiment en même temps, pas exactement en même temps, ça produit son petit effet, ça donne l'impression que les corps n'attendent que ça, ces gestes de colère, de résistance, il y a quand même de l'intention là-dessous, non?
Et oui, bon, Isadora, c'est pas la première danse politique, mais c'est une danse politique très très forte, il y a 100 ans. Parce qu'on dit toujours la danse est éphémère, c'est un art éphémère, mais il y a aussi des transmissions orales, écrites. Et là, de reprendre cette danse, alors elle est un peu saccagée, c'est une version brute. Hein. Mais on l'a apprise aussi très vite. Et puis là, on la danse sur la musique de Meute, le groupe de Hambourg. Mais c'est vrai que c'est fort de voir. Et j'aime bien l'idée que ce solo est tout d'un coup fait à 200. Puis c'est un solo pour les masses. Parce qu'en fait, elle avait rejoint la révolution. C'est l'émancipation du travailleur. Bon, et là, de voir finalement ces 200 manier ces gestes, il y a une sorte d'idéal un peu démocratique, d'horizontalité. Et c'est très beau de les voir essayer ça.
Très impressionnant. On va parler de ce rapport aussi que vous avez à la transmission dans quelques instants, Boris Charmatz, et de pourquoi vous aimez nous faire danser en rond. Mais d'abord, un petit panorama de la culture. On va pas mal lire ce soir. Ce sera après une mise à jour proposée par Burna Boy.
Back to life, back to reality, back to life. Back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now.
Then no fit touch my energy. Abba, I only die if I no get money, na disability. Baba, so forget me, my shy blocky. My lost soul. Ah,
me back. Come. My love, Sao. Ready for one, Kao. I back me at Kao. My updates go late, Pao. Money, one, Pao. Take them to Yakao. My love, Pao. I'm about to sue up for a shower.
Update, extrait du tout nouvel album de Burna Boy, No Sign of Weakness.
Le mag de l'été, Marie Misset, sur France Inter.
Tous les jours à 18h34 et 17 secondes, le mag de l'été en mode vigie culturelle.
Anno,
oui.
Obé.
Non, c'est pas non.
Aujourd'hui dans le panorama, on joue à des jeux, on va à Arles, mais pas pour de la photo. Et puis, on se demande ce que lisent les Français cet été.
Elisabeth est née en 1916, elle est décédée en 1990 et c'était mon arrière-grand-mère. Pendant 4 ans, j'ai mené une enquête sur la vie de cette femme. Je savais en gros rien sur cette femme, à part une chose que j'avais comprise mais qu'on m'avait pas vraiment dite, qui était qu'Elisabeth avait une maladie mentale.
C'est un phénomène constaté par tous les libraires interviewés par Le Figaro. Le livre d'Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth, est un immense carton. Certaines lectrices, lit-on, convainquent même leur libraire de l'acheter. L'histoire d'une enquête, donc celle d'Adèle, menée parce qu'elle a peur. Elle a peur d'être comme cette arrière-grand-mère dont on parle si peu ou si bizarrement, dont on dit qu'elle était folle. Un livre qui mêle archives, réflexions personnelles, discussions familiales pas toujours sereines et dont les ventes, donc, ne cessent de grimper. Grâce peut-être au prix Essai France Télévisions, mais surtout grâce au bouche à oreille. Probablement parce que chacun, à la lecture, interroge ses propres fantômes familiaux. L'été, c'est aussi le temps des mots fléchés, des parties de cartes qui durent tard dans la nuit. Allez, une dernière partie, on va se coucher. Si vous voulez ne pas passer 30 minutes à expliquer des règles à des gens hermétiques aux explications de règles, je vous recommande soit le hit de l'année, Sky Joe, soit le petit nouveau Flip 7. C'est des cartes, un peu de stratégie, mais pas trop quand même. Et puis, si vous préférez jouer seul, j'ai un paquet de solutions.
Les cahiers de vacances sont en passe de devenir de véritables best-sellers de librairie. Inutile de préciser que les parents sont les commanditaires et les enfants les utilisateurs, plus ou moins ravis.
Oh bah moi je trouve qu'une heure ou deux heures le matin, en travaillant, ça leur fait pas de mal, hein.
Le marché de l'édition a trouvé une manne pour vendre fort l'été. Quand les gens aiment traîner dans les papeteries presse, ce sont les cahiers de vacances non pas pour enfants, mais pour adultes. Et certains sont de grande qualité, comme celui édité par Série Noire de Gallimard. 8 enquêtes à résoudre avec plein de jeux pour y parvenir. Retrouvez donc un plaisir enfantin avec quand même ce petit frisson du meurtre. De quoi poser son téléphone à la plage. Et puis si vous n'êtes pas trop ludothèque...
Je voulais pas du tout faire de la BD. Moi à la base, je voulais faire HEC pour faire du marketing digital, mais mes parents trouvaient que c'était pas une bonne idée, ils disaient qu'il y avait pas de débouchés. Je pense qu'ils avaient un peu honte aussi, donc j'ai fini par céder et j'ai fait les Beaux-Arts.
Ce sont les mots d'un auteur de BD qui connaît un beau succès sur Instagram et qui vient de sortir « Coco n'aime pas le capitalisme » à la plage. Il s'appelle « Tiens, tiens, BD ». Allez voir la qualité des dessins et des blagues, des scripts absurdo-politico-humoristiques avec plein de gens à reconnaître dedans comme Mary Poppins, Philippe Etchebest, Buffy ou encore Arlette Laguiller. Que vous soyez fondu d'économie de marché ou pas, je prends le pari que Coco réussira à vous faire rire. Et puis, vous l'avez presque raté. Si vous êtes à Arles ou proche de Arles, mais que vous vous en fichez de la photo, sachez qu'on entre dans les derniers jours d'un festival qui donne à entendre le monde entier et qui propose mon loisir préféré de l'été, qui devrait aussi être le vôtre, celui de Boris Charmatz, aussi des siestes. Des siestes, mais des siestes musicales, accompagnées et gratuites. Et puis la journée se termine toujours par un concert dans un cadre que je qualifierais d'exceptionnel, les Arènes de Arles. Demain soir, vous pourrez donc y entendre, par exemple, l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. Tout ça, ça se finit dimanche. Et avec moi ce soir, l'homme qui aime faire la sieste l'été, dans le mag de l'été, c'est toujours Boris Charmatz. Avec nous, on parle ensemble de Cercle, de son atelier spectaculaire qui a lieu sous la nef du Grand Palais jusqu'à demain soir, qui est déjà passé cet atelier spectaculaire par Metz et par Avignon. Et on va aussi parler littéralement de Cercle, car on aurait pu commencer par là. Boris Charmatz, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de faire faire la ronde à des gens? C'est quand même le degré zéro de la danse, la ronde.
Oui, mais il y a des figures comme ça, le pas de deux. Hein, on peut être contre, mais le pas de deux en danse.
Il y a des gens qui sont contre.
Ben oui, oui, parce que c'est suranné. Bon, enfin, il y a des gens qui rêvent plus de trio, de
menuet.
Voilà le. Non, mais le pas de deux, c'est voilà. Et le cercle, c'est un peu pareil. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. On pourrait faire comme une sorte d'exposition vivante, en fait, avec à la fois des danses traditionnelles, des danses faites par des William Forsythe, des Anne-Thérèse Kersmacher, du ballet même, parce qu'il y a des manèges de Grand Jeté, il y a des et qu'on pourrait rassembler comme dans une exposition vivante des extraits de danse en cercle. Et puis en préparant ça, je me dis oui, mais finalement j'ai moins envie de faire des extraits de danse qui existent que d'inventer ensemble, d'inventer avec les danseurs qui sont là. Donc on a quand même convoqué Isadora Duncan, mais pour le reste c'est les danseurs qui m'ont rejoint et notamment aussi Magali Caillé-Gageant qui est mon assistante. On a travaillé ensemble, ils ont proposé des danses, on a inventé, fabriqué sur place et en cercle.
J'aimerais qu'on puisse entendre un bout de la musique de Meute, cette fanfare de Hambourg que vous utilisez en bande-son du spectacle, pour que les auditeurs peut-être aient une idée de l'atmosphère que ça peut créer. Je trouve qu'en entendant Meute comme ça, on a l'idée de ce que ça peut créer un petit peu ce mouvement circulaire en termes de transe en fait. Est-ce que l'idée c'est un peu de faire rentrer les gens dans une forme quand même de dissociation ou alors au contraire de...
Oui, parce qu'en fait le premier jour en public, donc hier, les danseurs dansent 40 minutes non-stop, à un moment donné ils font une sorte de boucle, mais là aujourd'hui on le fait deux fois, demain on le fait trois fois, c'est-à-dire on danse deux heures non-stop. Les danseurs peuvent sortir et rentrer, mais la musique de Meute elle a quelque chose comme ça d'hyper entraînant. Mmh. Mais les morceaux, on les distingue les uns des autres, mais en un sens il y a un continuum, il y a un vrai continuum, donc ça nous soutient, mais ça nous... Ouais, c'est une forme de transe en fait, c'est vrai que...
C'est un peu ça qui se passe. Moi ça m'a fait penser quelque part, je me suis dit pourquoi est-ce que tourner comme ça, ça produit ça au derviche tourneur tout simplement.
Oui, le vertige, le fait de continuer quoi qu'il arrive, quelles que soient les nouvelles. Moi j'écoutais Meute pendant le Covid, mais j'écoutais aussi France Inter. Mais,
France Inter et Meute.
Mais Meute beaucoup.
Vous mixiez les deux ou pas?
Oui, c'est ça, et je dois dire que Meute en boucle, matin, midi, soir, ça m'a un peu sauvé.
J'aurais dans l'idée que ça peut vous rendre un peu zinzin.
Oui, c'est vrai. Mais zinzin bien, quoi. Zinzin positif.
On a l'impression qu'il s'agit de danse très très libre. Hein. Vous avez d'ailleurs près de 200 amateurs sur scène, on n'arrête pas de le dire, et seulement 4 jours pour répéter, donc on ne voit pas très bien comment vous pourriez de toute façon créer quelque chose d'extrêmement précis. Et en même temps, vous vous inscrivez vraiment dans une tradition très longue, avec des danses créées par d'autres. Qu'est-ce que tradition a à faire là-dedans?
Déjà, ça a l'air libre, mais on leur bourre le crâne un peu, hein, parce qu'on incite, ils ont beaucoup de choses à retenir. Et la tradition, en fait, moi, quand j'ai commencé, on me disait, tu fais de la danse contemporaine, il faut inventer, il faut improviser. La danse d'hier, c'est la danse d'hier. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'au contraire, il fallait inventer entre le passé, le présent et le futur. Et que c'était avec ces temps comme ça mélangés qu'on allait s'en sortir et inventer justement. Donc j'ai travaillé avec des grands danseurs âgés comme Steve Paxton, avec des chorégraphes reconnus comme Teresa de Kersmacher ou Meg Stewart. Mais ça m'a pas empêché d'inventer ma danse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on travaille sur le répertoire de Pina Bausch qu'on peut pas faire des choses d'aujourd'hui et de demain, au contraire.
Voire même ça donne un cadre pour inventer mieux.
Oui, ben, en fait, c'est évident. En littérature, les écrivains sont aussi des lecteurs. Et parfois, en danse, on a l'impression que non, il faut évacuer le passé pour être libre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une liberté qui se fait en compostant le passé aussi.
Et si on écoute votre comparse dont on a déjà parlé tout à l'heure, Dimitri Chamblaz, vous avez pourtant un rapport un peu contrarié à la tradition.
Moi, ça fait 30 ans que je danse dans le monde entier et presque je connais les gens dans la salle, en fait, maintenant. Donc, il y a un problème de public. Et moi, j'ai l'impression que le fait de se déplacer, le fait d'aller dans des lieux qui, a priori, ne sont pas identifiés pour la danse, comme je fais à Los Angeles, on danse où il y a des gens. Donc, on danse dans les cinémas, les galeries d'art sont pleines, donc on danse dans les galeries, on danse dans des musées, on danse dans la rue. Je pense qu'on doit aller vers les gens.
Qu'est-ce qu'on y gagne en tant que société, Boris, à sortir la danse du théâtre, de l'opéra, à lui faire gagner d'autres terrains ? Pourquoi c'est bien pour tout le monde ?
J'ai surtout l'impression que la danse, c'est un peu mon motto, mais de se dire c'est un espace mental. Aujourd'hui, on danse devant son téléphone, sous la douche, dans son lit, sous son lit, sur
sous
scène.
Son lit.
Je sais pas.
Vous avez un lit très haut.
C'est possible. Bah, vous verrez, avec des enfants, ils peuvent danser sous le lit. Mais en tout cas, on peut danser bien sûr en studio de danse, dans des écoles de danse, dans des clubs, sur scène. Et c'est ce contraste-là qui est génial. On peut danser seul. Moi, je prépare un solo, j'adore danser seul. Mais danser à 200, danser à 4000, voilà.
Ce sera votre prochain objectif.
C'est des contrastes. Moi, j'ai un fantasme de faire une pièce pour 1000 danseurs. C'est un fantasme.
On va vous aider à le réaliser. En tout cas, ce truc que vous avez, non seulement de faire danser les gens en rond, mais aussi de vous inscrire fort quand même dans une histoire, ça m'a donné envie de vous présenter. Bernard Coquelet, il a fondé un truc incroyable qui a lieu tous les ans dans l'Allier, le Grand Bal de l'Europe. Il y a près de 6000 personnes qui viennent de toute l'Europe pour passer au moins un jour. Et cette danse à trois, ce petit menuet, hein, si j'en crois mes souvenirs de danse, ce sera juste après cette invitation de Joao Selva et Cléa Vincent. On peut pas refuser. Ça s'appelle Viens danser et c'est sur France Inter.
Levanta na raça, vai levanta na raça. Tem que ter fé na vida, buscar sobrevida, curtir e viver. Não fuja da raia, não pule da raia. Beco sem saída, segue sua vida, busque prazer. Ai, ai, por pouco quase nada. Tira a poeira, alegria de graça. Ai, ai, por pouco quase nada. Do rabo de arraia, pulo muralha, caiu na gandaia. Viens danser avec moi. Viens acreditar, dança sem parar. Comigo, vem dançar. Viens acreditar, yeah.
Danser de Joao Selva avec Cléa Vincent. Si vous êtes à Rennes demain, vous pourrez lui le voir sur scène.
le mag de l'été sur France Inter.
Et pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours avec vous, Boris Charmatz, chorégraphe dont l'atelier spectacle Cercle est présenté au Grand Palais à Paris. D'ailleurs, vous allez y filer juste après l'émission pour diriger vos 200 danseurs.
Et on a... Ça ressemble à rien, je suis déjà en short et en basket.
Très joli
pour
t-shirt.
Sauter dedans.
On a été rejoint à la table du Grand Mag, du Mag de l'été, mais c'est un grand magazine aussi, par Bernard Coquelet. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Marie, bonsoir Boris.
Vous êtes le créateur, fondateur d'un événement assez singulier, assez merveilleux, le Grand Bal de l'Europe qui a lieu tous les ans depuis plus de 30 ans maintenant, dans votre ferme, où se présentent des milliers de danseurs amateurs de toute l'Europe pour des danses issues un peu de partout. Je crois par ailleurs que vous êtes un admirateur du travail de Boris Charmatz. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que fait Boris ?
Alors, quand j'ai vu quelques images du spectacle Cercle, je me suis dit, il y en a quelques-unes qui auraient pu être prises à Gentine. Les corps qui bougent, qui avancent ensemble, qui sourient, on sent presque la transe. Et ce qui est différent, par exemple, tout à l'heure, tu disais, le cercle, c'est le... Oui, c'est ça, c'est le degré zéro de la danse. Alors que le cercle, dans l'origine des danses traditionnelles, c'est pas le degré zéro, c'est le degré un, tout par-delà. Et puis après, évidemment...
C'était une provocation, Bernard. Je ne le pense pas vraiment.
Oh, non. mais j'ai vu des gens entrer en transe à partir du branle-double, qui est... Toute la danse en Europe parle du branle-double, hein. Deux pas à gauche, deux pas à droite, deux pas à gauche, deux pas à droite. Des gens... Je ne veux pas faire ça pendant toute la nuit, mais entrer en transe pour après faire des danses de couple, faire des bourrées, faire des gavottes.
Ça donne envie quand vous dites gavotte. Bernard Coquelet, comment il est né ce Grand Bal de l'Europe que vous faites chez vous dans l'Allier ? C'est pas pour rien, je crois, qu'il s'appelle De l'Europe.
J'aime la danse, j'aime la vie. Alors, deux choses. Pour moi, la danse, c'est jamais je. La danse, c'est nous. Et si je suis au micro aujourd'hui, c'est grâce à une équipe assez fantastique de 500 personnes qui sont discrètement efficaces et qui œuvrent pour que nos rassemblements puissent exister, où chacun peut se construire ses grands moments. Et les grands moments, ça peut être différent. Ça peut être effectivement danser avec 200 personnes. Et ce que fait Boris, ce qui est intéressant, c'est parce que faire danser 200 personnes, c'est, je dirais, courant pour moi depuis 30 ans, où dans les stages de bourré, on met en mouvement 200 personnes pour des danses qui pourraient être très codifiées, mais c'est pas mon approche. Et la diversité, c'est une richesse. Et ici, par exemple, par rapport à une danse qu'on appellerait la bourrée, certains essaient d'être très près d'une tradition, d'ailleurs souvent plus rêvée et fantasmée que réelle, et d'autres essaient de se laisser aller, de lâcher prise et de voir ce qu'on peut en faire tout simplement.
D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas fan de l'appellation danse traditionnelle ? Parce que c'est souvent comme ça qu'est présenté ce grand bal que vous avez fondé.
Depuis 1996, on n'oublie plus ce terme parce que les danses traditionnelles, elles sont dans un cadre précis, il y a une tradition. Mes ancêtres au 19e siècle dansaient peut-être la bourrée, ils circulaient à pied. Et au bal de l'Europe, on a des gens qui viennent de toute l'Europe, des États-Unis. Et vous le disiez tout à l'heure, enfin tu le disais tout à l'heure, j'ai dansé à Berlin 3 jours avant que le mur tombe, le samedi à Berlin-Est, le dimanche à Berlin-Ouest, et 3 jours après, Rostropovitch jouait du violoncelle et je pleurais dans ma ferme argentine.
C'est une scène qui vous fait pleurer encore aujourd'hui, Bernard ?
Ça arrive, oui.
D'où viennent les gens justement qui participent au Grand Bal de l'Europe ? Vous avez dit États-Unis, vous avez dit de toute l'Europe. Comment est-ce que vous avez réussi quelque part à faire entendre, à faire résonner ce bal aussi loin ?
J'ai organisé des rencontres auxquelles j'aimerais participer, c'est-à-dire où on est libre, on pratique des danses qui sont pratiquées en Europe et qui ont tous des ressorts différents. Une danse de couple. Bon, la valse, tout le monde connaît. Certains disent, c'est tout le temps la même chose. Quand les gens disent ça, je dis, c'est que vous n'avez jamais dansé la valse. Moi, je parle de nuances de valse, et chaque valse est différent parce que les musiciens sont différents, parce que je suis différent, et que j'essaie de faire un corps, un tout avec ma partenaire. Et en cela, je pense que, même si avec des mots différents, Boris doit de temps en temps réfléchir et travailler autour de comment... avec deux corps, on n'en fait plus qu'un.
Et puis après, on a des enfants racisés. Je vous laisserai agir peut-être Boris à ce que dit Bernard.
Non mais en fait, on essaye d'inventer ensemble, là au Grand Palais, une patte chorégraphique, les danseurs proposent, et là je vous entends parler de valse, de gavotte, de bourrée, je me dis mais ok, la prochaine édition, on va rajouter des choses à notre boucle, voilà.
Des gavottes, de la gavotte
je sais pas, va falloir que je continue la discussion hors micro pour voir ce qu'on pourrait mettre dedans.
La gavotte, je n'ai absolument aucune idée de comment ça se danse, Bernard Coquelet.
Alors, en plus, tout à l'heure, Boris avait comme projet de rassembler 1000 danseurs. Et comme à Gentine, on a près de 3000 danseurs tous les jours, ça serait absolument facile à faire. Il me dit, le 1er août 2026, ok, il a 1000 danseurs et on fait... puisqu'à Gentine, il y a aussi des danses contemporaines.
En réalité, je suis surtout angoissé par la chorégraphie et du chorégraphe que je suis qui doit inventer quelque chose. Mais effectivement, les danseurs, j'ai l'impression qu'on pourra les trouver parce qu'il y a un vrai besoin de danse aujourd'hui.
Vous le sentez, fort. Ça aussi, de votre côté, Bernard Coquelet, ce besoin de danse. Il y a eu un très beau documentaire sur votre festival, un documentaire de Laetitia Carton qui s'appelle Le Grand Bal, qui avait même été sélectionné à Cannes à l'époque. Est-ce que vous sentez, vous aussi, cet immense besoin de danse, de bouger, de s'exprimer ? Chez vous, ça va jusqu'à la transe, hein.
Oui, parce que il y a peu d'endroits où on peut avoir quelqu'un dans ses bras au bout de 3 minutes. On tend la main, il y a toujours quelqu'un pour la prendre. Et moi, je conseille aux gens d'aller dans des endroits, de parler, d'échanger. Et quelquefois, évidemment, je parlais de Berlin tout à l'heure, on parlait de Festival de Cannes où on a dansé avec Laetitia et toute l'équipe sur le tapis rouge. Mais les moments les plus émouvants, c'est quand quelqu'un sous le chêne de Gentine me prend dans ses bras et me dit « Bernard, avec l'équipe du Grand Bal, vous avez changé ma vie ».
Vous avez intégré, vous, Boris Charmatz, des moments de câlin qui font partie de la danse dans votre cercle.
Oui,
dans
c'est vos vrai. Cercles. Oui, c'est il y a une des danses. D'ailleurs, c'est la première où on a une danse au sol assez complexe. D'ailleurs, on a les doigts sur les paupières, on prend un équilibre sur un coude. C'est assez compliqué. Et puis il y a des moments de rencontre. En discutant avec les participants, on a dit une accolade, un câlin, je sais pas, mais quelque chose de très simple, très doux, très degré 1, degré 0, je sais pas. Et cette accolade descend au sol fond. Donc ouais. c'est un enlacement.
Les deux corps en un, t'en parlais,
Bernard. Qui est en fait assez technique, hein. C'est très très dur de se mettre à deux. Déjà, bon, se mettre à deux, se rapprocher, les corps qui se touchent, c'est beau, c'est très simple, mais faut se choisir, mais ensuite fondre.
Là,
c'est technique.
Là, ça devient technique.
Mais j'aime bien. C'est très dur, même pour les danseurs pros. Hein, faut que les deux corps fassent pas mal d'ajustements pour arriver à descendre au sol et rouler ensemble dans ce grand palais.
Bernard Coquelet, vous dansez encore tout seul, vous ?
Oui, mais alors il y a deux choses. Quand je crée des danses, des bourrées essentiellement. Certaines sont accessibles directement par 600 personnes, 1000 personnes récemment dans un festival près de Rennes. Tout le monde fait la même chose en même temps, en 10 minutes, tout le monde est en danse, et ça c'est réellement fantastique. Et parallèlement, je crée des choses un peu différentes. La dernière création s'appelle « Regard », où on apprend à lire dans les yeux, par exemple, où on communique avec l'ensemble du visage. Et quand on fait des variations sur les danses ou des improvisations, effectivement, je rejoins Boris, le plus dur, c'est de se regarder dans les yeux et de lire dans les yeux. Et en même temps, d'essayer de traduire ça avec l'ensemble du corps. Et ça, c'est très jouissif, bien sûr.
Bernard, Boris, cette émission touche à sa fin. On a tous besoin qu'on nous conseille des choses avant de partir en vacances. Avec quoi remplir notre kit de survie ? J'ai encore quelques mini-questions pour vous. Boris Charmatz, un livre que vous avez beaucoup offert dans votre vie.
Alors là, ben, je pensais à un livre que je viens de finir, qui s'appelle La Végétarienne de Han Kong, qui est prix Nobel de l'an dernier, et coréenne. Et c'est très très beau, enfin, c'est aussi hyper sombre en fait. Mais,
La
Végétarienne de Han Kong.
Bernard Coquelet, un endroit où vous adoreriez danser.
Les endroits où y a des gens qui sont contents de se retrouver pour danser. Et j'ai dansé à Londres dans une cathédrale, sur le tapis rouge à Cannes, à Berlin, mais aussi dans des petits endroits. Et moi, j'essaie de garder mes capacités à m'émouvoir. Et il y a toujours des moments qui vont surgir comme ça. Et je conseille à tout le monde de garder cette espèce d'esprit d'enfant et ses capacités à s'émouvoir.
Et ses capacités à s'émouvoir, moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti hier en allant voir Cercle, votre spectacle atelier pour Richard Matz. Les différentes recommandations de nos kits sont à retrouver sur le site, sur le site et l'application Radio France, évidemment. Pour Richard Matz, merci. Rendez-vous au Grand Palais dans une heure pour le prochain atelier spectaculaire de Cercle. La Dôme dernière, c'est demain à 20h et ça se poursuivra avec un DJ set. On va danser toute la nuit. Merci Bernard Coquelet, le Grand Bal de l'Europe. Cette année, c'est du 25 juillet au 8 août. C'est dans l'Allier. Et si vous n'y allez pas, trouvez le documentaire de Laetitia Carton, Le Grand Bal. Il est sorti en 2018. Je vous remercie encore tous les deux.
Merci.
Et je vous souhaite un excellent été. C'était le Mag de l'été avec Marion Philippe, Tarana Touri, Ibrahim Damani à la préparation, Lucie Le Marchand à la réalisation et à la technique, Ludovic Asselot. Et après le journal de 19h, vous retrouvez votre rendez-vous avec Le Téléphone Sonne. Ce soir, Charlotte Piret, vous vous intéressez à un classique de l'imaginaire estival, Les amours d'été.
Oui, les coups de cœur, crush, flirt, plan sexe ou vraie rencontre partie pour durer. Ça nous est tous arrivé, non? Ces témoins estivales qui se concrétisent ou pas. Mais les codes de ces amours d'été ont-ils changé? MeToo et le respect du consentement, les applis et leurs codes propres, les pratiques des nouvelles générations. Tout cela est-il venu modifier en profondeur le triptyque quasi intemporel? Si sexe et parasol, bref, venez partager avec nous comment vous avez vécu, vivez ou fantasmé vos amours de l'été. Un seul numéro, le 01 45 24 7000 par téléphone et WhatsApp. Le téléphone sonne, c'est juste après le journal de 19h.
Si sexe et parasol, j'adopte. Quant à nous, on se retrouve lundi.